Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9 ou graphite.net. Donc je suis Stéphane Croza, je suis enseignant dans le cadre du cours WE01 Écrire sur le web avec Quentin Duchemin. Écrire sur le web, c'est un cours dans lequel on étudie le fonctionnement du web et dans lequel on réfléchit sur les enjeux éthiques, politiques, environnementaux liés au numérique en général et au web en particulier. Alors quand je dis on, eh bien en fait c'est pas trop Quentin et moi-même, mais c'est surtout les étudiants qui participent à ce cours. Donc dans le studio avec moi aujourd'hui, il y a Florent Exposito, bonjour Florian.
Bonjour.
Il y a Romain Salva.
Bonjour.
Et il y a Paul Monet.
Bonjour.
Donc bonjour à tous les trois. Alors tous les trois, vous avez travaillé sur un projet comme les autres étudiants du cours. Dans le cadre de ce projet, vous avez travaillé sur un article, vous avez travaillé sur des fiches de lecture. Et donc vous allez nous faire une restitution d'une partie de ce travail dans quelques instants. On a entendu juste avant une autre restitution qui parlait des enjeux de soutenabilité. Donc vous allez nous parler du monde du web et de l'économie sociale et solidaire. Ça fait le lien avec quelques thématiques qu'on a abordées dans le cadre du cours, notamment le capitalisme de surveillance ou encore la redécentralisation du web, sur laquelle vous allez notamment revenir. Donc si c'est OK pour vous, je vais donner la parole à Florian pour démarrer.
Okay.
Et ben c'est parti.
Bonjour à tous, bienvenue sur notre chronique dédiée au monde du web et des associations. Aujourd'hui, nous allons vous présenter d'un côté un pilier du nouveau modèle européen, j'ai nommé l'ESS, ESS pour économie sociale et solidaire, et de l'autre, les géants du numérique qui influencent le monde entier, j'ai nommé les GAFAM. GAFAM pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. On va donc essayer de répondre tout au long de cette chronique à la question suivante. Est-ce que les acteurs de l'ESS doivent s'orienter vers un web libre et décentralisé plutôt que d'utiliser les outils des GAFAM ? Pour répondre à cette problématique, Romain vous expliquera pourquoi nous sommes arrivés à parler de redécentralisation et non pas de décentralisation. Puis nous finirons cette chronique avec Paul qui nous parlera des alternatives numériques, éthiques et le rôle crucial des acteurs de l'ESS. Mais avant, je souhaiterais vous expliquer les solutions numériques alternatives pour les assos et les membres de l'ESS. On pourrait se demander comment les associations jonglent-elles avec les outils du web et quels défis rencontrent-elles. Prenons un exemple concret. Actuellement, les informations d'événements de l'UTC provenant des associations se transmettent principalement par Facebook. Et la majorité des associations se voient obligées de faire de la communication aux UTCiens par ce réseau social. Parmi ces associations, on y compte des associations engagées dans la transition écologique et la solidarité. Le fait d'utiliser des applications issues des GAFAM, qui ont comme principale ambition de maximiser leurs profits, pourrait aller à l'encontre des valeurs. Si on imaginait un scénario dans lequel Facebook aurait beaucoup moins de poids et que les étudiants utilisaient des alternatives plus libres et coopératives, alors ces associations pourraient respecter leurs engagements. Un exemple de service alternatif à Facebook est l'outil Mobilizon de Framasoft. L'outil Mobilizon est un logiciel libre, c'est-à-dire que le code est publiquement consultable, modifiable et réutilisable. Cela permet une réelle transparence pour ceux qui utilisent les applications en tant qu'organisateurs. Mobilizon est aussi un logiciel décentralisé, c'est-à-dire que des personnes peuvent s'ajouter au réseau, mais qu'aucune ne peut contrôler l'ensemble. Mobilizon fonctionne comme un réseau d'instances, c'est-à-dire d'hébergeurs connectés les uns aux autres. N'importe qui peut créer une instance Mobilizon. Ainsi, toutes les instances sont créées, animées, modérées et maintenues de façon indépendante. Cet exemple introductif, dans le cas des associations UTCN, souligne les difficultés que peuvent rencontrer actuellement les membres de l'ESS à faire face aux dépendances créées par les gens du numérique. Mais en fait, c'est quoi l'ESS ? Nous allons voir dans un extrait de l'émission T'as capté, édité par la Cité de l'économie, qui va nous permettre de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Cette série de vidéos a été pensée par Joseph Schumpeter, publiée le 8 avril 2021, afin de découvrir l'économie de manière simple et intuitive.
L'économie solidaire arrive dans les années 70. Elle établit un rapport entre les citoyens, un projet d'utilité sociale et le territoire. L'économie solidaire est très ancrée localement et répond aux besoins des citoyens touchés par le chômage et l'exclusion.
Et même les grands groupes font de l'ESS ?
Pas trop.
Alors oui, ce sont majoritairement les petites et moyennes structures qui façonnent le paysage de l'ESS. Par exemple, celles qui proposent d'autres façons de produire, de consommer et d'échanger, comme le commerce équitable ou le maintien d'une agriculture paysanne respectueuse de l'environnement. Mais on compte aussi de grandes entreprises, comme des assureurs et des banquiers mutualistes. Dans l'ESS, la gouvernance repose sur des principes de coopération, d'équité et de solidarité. C'est un point essentiel, comme le fait de rechercher une prise de décision la plus démocratique et participative possible. À retenir, la loi du 31 juillet 2014. Cette loi donne un statut juridique et autorise les sociétés commerciales à en bénéficier à condition de respecter les principes de l'ESS. Les bénéfices doivent servir au maintien et au développement de l'activité, tout en gardant les principes de solidarité et d'utilité sociale.
L'ESS est un modèle économique qui a pour ambition de promouvoir la solidarité et le service rendu par rapport aux profits dégagés. Sa charte, décrite par Safa Shams en 2019 dans le livre « Vers une communication numérique plus sociale et solidaire », est présentée comme le bien-être social, la démocratie participative, la responsabilité, l'écologie, le travail et la cohérence. Il existe des structures de l'ESS spécialisées dans le numérique, comme par exemple l'entreprise Fairphone, qui conçoit et produit des smartphones pensés pour répondre aux contraintes environnementales et celles du commerce équitable. Cependant, aujourd'hui, les membres de l'ESS ont des difficultés à s'orienter vers un web libre et décentralisé, plutôt que d'utiliser les outils des GAFAM. Un exemple issu du livre de Safa Sham, page 36, souligne cette problématique. Une responsable de communication déclare « Je suis seule à la communication, donc je me vois contraint d'utiliser les outils les plus répandus et que je sais utiliser. Je n'ai tout simplement pas le temps de chercher d'autres alternatives. » Comme il a été dit dans l'émission T'as capté par rapport à la loi Hamon, actuellement des changements significatifs ont été introduits par cette loi sortie en 2014. Selon le pôle de l'économie sociale et solidaire, l'ADESS, les 5 objectifs de cette loi sont de reconnaître l'ESS comme un mode d'entreprendre spécifique, de consolider le réseau, la gouvernance et les outils de financement des acteurs de l'ESS, de redonner du pouvoir d'agir aux salariés, de provoquer un choc coopératif et enfin de renforcer les politiques de développement local durable. Dans le livre, encore une fois, de Safa Shams, l'auteur nous invite à sensibiliser, éduquer et à réduire notre dépendance aux applications des GAFAM. Cette prise de conscience nous permettra, selon elle, de comprendre les enjeux, les dérives et les alternatives disponibles. Il existe des plateformes comme celle de Etikia, qui est une plateforme en ligne répertorie des émissions radio, livres numériques et conférences. Elle permet de sensibiliser le grand public, les associations et les entreprises à la question de la vie privée, des effets de la technologie sur notre santé et des usages numériques.
Merci Florian. Donc tu nous as présenté des solutions numériques alternatives pour les assos et les autres acteurs de l'ESS. Tu as introduit cette problématique. Et donc maintenant, Romain va continuer une mise en perspective avec le principe de la redécentralisation. Pardon, tu as la main.
Alors, durant la seconde moitié du XXe siècle, et dans un contexte de guerre froide et du risque nucléaire, la population américaine était plongée dans un climat de peur. Parallèlement, un mouvement culturel grandissant, notamment chez les jeunes, a vu le jour dans une recherche d'émancipation vis-à-vis des bureaucrates de l'époque. C'était la contre-culture. En effet, d'après les propos de Charles Wright Mills en 1956, dans le livre « Aux sources de l'utopie numérique, de la contre-culture à la cyberculture », Stewart Brand, un homme d'influence de Fred Turner en 2012, les socles de l'information et du pouvoir étant centralisés, une poignée d'hommes, du haut de leurs fonctions au sein de la société américaine, sont en mesure d'observer et de bouleverser profondément par leurs décisions le monde quotidien des femmes et hommes ordinaires. En 1969, un projet militaire du nom d'ARPANET est mis en place. C'était un réseau de communication américain décentralisé. La décentralisation permettrait de mieux résister aux pannes et aux attaques ennemies en cas de bombardement, notamment nucléaire, d'une partie des États-Unis. Le reste du pays pouvait continuer de fonctionner et menacer de riposter car il n'y avait pas de centre unique qui aurait pu être détruit. C'était les prémices d'Internet. Ce n'est qu'en 1981 qu'on observe une unification du réseau grâce au couple de protocoles TCP/IP qui posa les fondations d'Internet. Cette technologie a été standardisée à la population. Elle était donc un moyen pour la contre-culture de s'émanciper des bureaucrates puisque le pouvoir n'était pas centralisé et qu'il pouvait communiquer sur de grandes distances avec d'autres personnes. Elle permettait le libre accès à l'information et la liberté d'expression. Plusieurs nouveaux mouvements sociaux ont ainsi été créés, notamment celui des nouveaux communalistes dans les années 1970. Ils ont mis en pratique leurs idées, considérant les technologies d'information comme changement politique. Selon Fred Turner, elles sont un moyen de réorganiser le monde grâce à la circulation rapide des informations. Internet est donc associé à l'idée de changement politique. L'usage qu'ils en ont fait n'est pas en contradiction avec leur volonté de décentralisation du pouvoir de l'époque. En revanche, on voit qu'aujourd'hui son accaparement par les GAFAM va dans le sens d'un projet politique différent de celui des acteurs de l'ESS.
I think that was still kind of going on a little bit when I was here, when I was working in tech. I think the hippies will always win no matter what.
Wait, really? Okay.
No, I mean I think what was interesting to me is that, you know, there's a lot of money at play and a lot of companies competing for, you know, billions of dollars and users and all this stuff. And in Wall Street, they just kind of, you know, like, it's like the old school, like, we're hedge fund guys, we get rich and whatever. Here it's sort of shrouded in this, you know, we're making the world a better place, we're doing, you know, and a lot of these apps are. But it's just kind of for comedy, it's just kind of a funny thing to make fun of. And yeah, I mean, I think that comes out of hippie culture, ultimately, I mean, which isn't a bad thing. I think there's a lot more attention on just charity and all this kind of stuff here than you would have in, you know, in New York in the 80s.
Alors, dans cet extrait, celui qui parle, c'est Mike Judge. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il a commencé sa carrière dans une start-up de la Silicon Valley. Il est acteur et scénariste. Il a notamment créé la série télévisée Silicon Valley. Si son avis est intéressant, c'est que cette comédie est une parodie de la culture de l'industrie technologique dans la Silicon Valley. Elle y met en scène un programmeur et sa jeune start-up qui se trouve en difficulté face à de grandes entreprises. Dans cet extrait, il nous affirme que les hippies gagneront toujours. Il y explique notamment que les institutions traditionnelles travaillaient pour faire de l'argent, tandis que les hippies travaillaient pour révolutionner le monde et travailler pour la charité. D'après lui, c'est la raison pour laquelle les hippies gagneront toujours, puisqu'ils ont donné un sens à la réalisation de leur travail afin de changer le quotidien de milliards de personnes. Aujourd'hui, la Silicon Valley est un technopole situé dans la baie de San Francisco aux États-Unis. Elle est orientée dans les technologies du numérique. Les mêmes qui ont fait naître les nouvelles habitudes issues de la cyberculture qui sont les nôtres. La consommation de contenu multimédia en ligne sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les musiques, mais encore l'achat et la revente en ligne sur Amazon ou eBay, etc. Or, Internet est aujourd'hui dominé et influencé en grande partie par les GAFAM. Leurs produits et services créés ont révolutionné le monde. On vit dans une société qui a été remodelée. Elle est basée sur les nouvelles technologies de l'information. Nous sommes tous plus ou moins dépendants d'Internet. Cette domination va à l'encontre de la décentralisation du pouvoir, qui était à l'origine de l'utopie d'Internet. On s'écarte de l'objectif de départ de la contre-culture, qui était de combattre le pouvoir détenu par une poignée d'hommes durant le XXe siècle. C'est pourquoi on observe aujourd'hui une volonté de réduire le poids des GAFAM sur Internet. On parle alors de redécentralisation. On peut citer Framasoft, qui propose des alternatives aux outils numériques de Google, comme des services et logiciels libres. Il y a Framaforms comme alternative à Google Forms pour réaliser des questionnaires et sondages. Mais encore de Mastodon, une alternative décentralisée au réseau social Twitter. On peut trouver plusieurs serveurs Mastodon reliés entre eux, par exemple celui de l'April ou encore Mastodon.social, créé par le fondateur de Mastodon lui-même. La contre-culture du XXe siècle, qui combattait pour une décentralisation du pouvoir, trouve une sorte de continuité via les acteurs du numérique dans le domaine de l'ESS, qui œuvre pour une redécentralisation du pouvoir détenu par quelques géants du numérique.
Merci beaucoup à toi Romain, donc pour nous avoir parlé de redécentralisation. Et donc maintenant, pour la troisième et dernière partie, Paul va nous parler des alternatives numériques éthiques et donc du rôle en particulier des acteurs de l'ESS dans la proposition de ces alternatives. À toi de jouer.
En effet, aujourd'hui, 4 des 5 entreprises les plus capitalisées en bourse sont des entreprises high-tech. Toutes les GAFAM sont devenues, en 20 ans, les entreprises les plus valorisées en bourse dans le monde. c'est avant tout grâce à l'immensité des données générées. Leur but est donc tout simplement de faire passer le plus de temps aux utilisateurs sur leurs produits pour qu'ils visionnent le plus de pubs et génèrent plus de données et donc plus de rémunération. C'est la captologie, où la technologie numérique est utilisée comme outil d'influence sur les individus. Il existe également des entreprises spécialisées, elles se nomment des data brokers, et leur seul but est de collecter les données d'un maximum de personnes par le biais d'achats de données en grande quantité. Elles récupèrent donc nos données personnelles, telles que les numéros de téléphone, les adresses, les revenus, etc. Ainsi, en 2012, Axiom, l'un des plus grands data brokers au monde, prétendait détenir des fichiers sur environ 500 millions de consommateurs actifs dans le monde, avec environ 1500 points de données par consommateur, sachant qu'un point de données est une information telle que l'adresse de votre domicile. Certaines de ces données vont donc intéresser d'autres entreprises qui peuvent les acheter, comme par exemple les assurances qui peuvent réduire leurs risques si elles connaissent les données de santé de leurs clients. Elles peuvent également utiliser ces données à des fins politiques, comme lors du scandale Cambridge Analytica qui va être expliqué dans l'audio suivant, qui est un extrait d'une émission de radio d'Europe 1 diffusée en 2018.
L'économie, Axel de Tarlé, avec cette histoire assez extraordinaire. Facebook s'écroule en bourse parce que l'entreprise est sanctionnée par un vaste scandale de fuite de données. Hein.
Voilà, l'affaire a éclaté aux États-Unis. Effectivement, elle a fait chuter hier de 7% Facebook à Wall Street, soit 30 milliards d'euros de valeur boursière partie en fumée. C'est quand même l'équivalent d'une entreprise comme Renault ou EDF. Alors, cette histoire, eh bien, nous sommes en 2014. Un soi-disant universitaire propose sur Facebook de faire des tests de personnalité moyennant rémunération. Près de 300 000 personnes vont participer à ces tests de personnalité. Et en fait, ce pseudo-universitaire va ainsi récupérer non seulement les données personnelles de ces 3 000 participants, 300 000, oui, mais aussi de tous leurs amis, de tous leurs contacts sur Facebook, soit en tout 50 millions de profils Facebook, donc goût, sexe, religion, appartenance politique, adresse, etc. Et tous ces profils Facebook seront ensuite récupérés par l'entreprise Cambridge Analytica qui en fera un usage à des fins politiques. Et pour cause, qui est le vice-président de cette entreprise, Cambridge Analytica? Eh bien, c'est Steve Bannon, l'ancien plus proche conseiller de Donald Trump.
En 1998, Sergey Brin, cofondateur de Google, écrivait dans un article scientifique sur l'anatomie des moteurs de recherche pour l'université de Stanford. Compte tenu de l'expérience acquise avec d'autres médias, nous attendons à ce que la publicité financée par les moteurs de recherche soit intrinsèquement biaisée en faveur des annonceurs et éloignée des besoins des consommateurs. Il conclua donc qu'il ne fallait pas que les moteurs de recherche fassent de la publicité. Cependant, Google et les autres géants du numérique se sont depuis rangés au mécanisme de ce que l'on nomme aujourd'hui le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire la monétisation des données personnelles pour en faire du profit. Mais on peut alors faire l'hypothèse que les utilisateurs détiennent un certain pouvoir puisqu'ils sont à l'origine de la création de la valeur économique de ce capitalisme de surveillance. C'est donc en modifiant notre façon d'utiliser le web et en favorisant la diversité numérique que nous avons la possibilité de diminuer notre dépendance envers les GAFAM. Les campagnes de sensibilisation et les actions collectives peuvent contribuer à orienter le paysage numérique vers une voie plus éthique, respectueuse de la vie privée et axée sur le véritable besoin des utilisateurs. Un exemple concret est le projet Emancipasso de Framasoft qui vise à émanciper les associations des plateformes centralisées en proposant des alternatives respectueuses de la vie privée et qui œuvrent pour un numérique éthique. Avec par exemple l'introduction des logiciels libres tels que Mattermost à la place de Slack pour de la messagerie instantanée ou encore Jitsi à la place de Zoom pour de la visioconférence. Dès lors, il y a un problème pour tous les acteurs de l'ESS. Si ces acteurs veulent atteindre un maximum d'utilisateurs, ils doivent publier sur la plateforme qu'ils dénoncent pour toucher le plus d'utilisateurs, mais par conséquent, alimenter cette même plateforme. Il faut donc que ces acteurs de l'ESS sensibilisent à leur tour à des alternatives numériques telles que Mastodon pour remplacer Twitter ou Signal pour remplacer WhatsApp. Le défi pour ces acteurs de l'ESS est de proposer des alternatives éthiques qui soient également accessibles à un grand nombre d'individus et c'est à chaque acteur de se positionner entre ces deux options avec un degré plus ou moins varié. D'une part, ils peuvent proposer des alternatives aux GAFAM, et de l'autre, ils peuvent aider à la diffusion de cette culture numérique alternative à travers des formations et de la sensibilisation.
Eh bien, merci à tous les trois pour donc cette présentation. Vous nous avez parlé du web, vous nous avez parlé de l'économie sociale et solidaire. Vous avez notamment mis en perspective que les acteurs de l'économie sociale et solidaire étaient dépendants des outils des GAFAM, du capitalisme de surveillance, que pour autant ça pourrait leur poser un problème, puisqu'en général leurs valeurs sont différentes de celles de ces géants du numérique dont ils utilisent les outils. Vous avez évoqué un petit peu à la fin le principe de redécentralisation, enfin pas un petit peu, vous avez évoqué à la fin le principe de redécentralisation et vous nous avez parlé d'acteurs de l'ESS qui eux-mêmes proposent des services alternatifs et d'accompagner en quelque sorte donc d'acteurs de l'ESS dans le domaine du numérique, comme par exemple Framasoft, qui accompagne d'autres acteurs de l'ESS qui ne sont pas dans le domaine du numérique, à ceux décafamisés ou à ceux décentralisés. Alors donc merci pour cette présentation. On a quelques questions. Alors peut-être la première qui a soulevé Maxence, que je vais Maxence, puis il y avait une autre personne, pardon, j'ai perdu son nom, mais elle se reconnaîtra. Maxence pose la question de la compatibilité entre l'ESS et la rentabilité. Donc il demande, est-ce qu'on ne devrait pas combiner les deux? Mais de fait, vous avez cité Fairphone, par exemple, qui cherche à combiner les deux. L'objectif, c'est bien que l'entreprise soit rentable, sinon ça ne fonctionne pas. Il y a d'autres entreprises coopératives, comme par exemple Label Emmaüs, qui est une petite alternative à Amazon, qui également a un objectif de rentabilité. Il faut que l'entreprise fonctionne. Je ne sais pas, voilà, si vous voulez ajouter des éléments autour de ça, si vous avez connaissance d'autres modèles économiques, par exemple. La question nous était posée aussi de savoir comment Picassoft fonctionnait ou comment Framasoft fonctionnait. Je ne sais pas si vous avez quelques éléments sur des modes de fonctionnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire que vous voulez partager avec nous.
Alors, moi, en fait, là, je suis en train de regarder, j'ai regardé sur Internet une donnée qui paraît assez intéressante par rapport à la rentabilité des entreprises membres de l'ESS. Donc en fait, en France, faut savoir que le marché du logiciel libre et open source pèse environ 5,9 milliards d'euros et représente plus de 60 000 emplois directs en 2022. Donc enfin, ça peut aussi retranscrire un peu l'utilité de ces logiciels libres et justement la part de rentabilité, dans le sens ça peut créer des emplois, ça peut donner une assez grande part sur le marché. Maintenant, au niveau de la rentabilité, c'est vrai que je peux pas donner d'éléments particuliers avec des exemples concrets, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet de donner la possibilité d'augmenter l'emploi et voilà.
Alors, concernant certaines prévisions, le marché de l'open source devrait peser à l'horizon 2027 en France, pas loin de 8,7 milliards d'euros, et une augmentation de plus de 30 000 emplois à temps plein.
Ok, bah merci de cette contribution. Alors, en faisant quand même attention, c'est-à-dire que pour le coup, le fait de faire du libre est souvent associé avec l'économie sociale et solidaire. Mais par contre, il y a aussi une économie non sociale et solidaire qui utilise du logiciel libre. Donc, dans les chiffres que vous donnez, il y a aussi de l'exploitation de logiciels libres qui sont faits dans des modes de fonctionnement qui relèvent pas de l'ESS. Mais comme vous l'avez dit, ça montre quand même qu'il y a au moins à certains endroits un fonctionnement économique classique, on va dire, qui se fait dans le domaine de l'ESS. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir, je cite souvent cet exemple, mais parce que je le trouve très significatif, hein, vous pouvez aller voir les LicoHorn avec deux O, de mémoire, le nom du site, c'est LicoHorn.com, et vous y trouverez donc un certain nombre d'entreprises, notamment liées autour du numérique, donc on a déjà cité Fairphone ou Label Emmaüs, ou encore Alcop, etc., qui sont donc diverses entreprises qui fonctionnent sur un modèle économique traditionnel, donc avec une logique de rentabilité. Et puis il y a également des associations donc comme Picassoft ou Framasoft qui fonctionnent à partir de dons. Hein. L'association Framasoft, c'est 100% des dons, et l'association Picassoft, donc c'est essentiellement des bénévoles, mais c'est que des bénévoles, pardon. Mais les serveurs sont bien payés également par les dons des utilisateurs. Une seconde question, puisque vous avez réévoqué la question du logiciel libre. Alors, la question qui nous était posée était un peu technique, donc je vous invite pas forcément à répondre exactement à cette question. La question, c'était quelle était la part des logiciels libres sur le marché et comment cette tendance évolue. Donc ça, c'est une question auquel vous avez pas forcément la réponse directement. Peut-être que la question qu'on pourrait reformuler, c'est quelle perception vous en avez, vous, aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que, effectivement, la part des logiciels libres ou du numérique alternatif, elle est plus présente dans votre vie quotidienne, sur vos téléphones, dans vos cours, dans vos assos, dans vos clubs de sport, que sais-je, dans vos stages, voilà, dans les différentes expériences que vous avez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression de voir s'installer ? Un petit peu, beaucoup, pas du tout. Est-ce qu'on a une... tentative de contribution, non ? Je vous prends un peu au dépourvu.
Alors moi, juste, j'ai pas forcément, je côtoie pas forcément des personnes qui utilisent des logiciels libres particulièrement. Mais ce que je peux en dire, c'est que je pense que ça va vraiment être assez intéressant dans le sens tous les problèmes qu'on entend aujourd'hui dans l'actualité avec la stratégie des GAFAM à collecter l'attention des utilisateurs, à toujours utiliser un système de scrolling infini et faire perdre du temps, justement. Avec les logiciels libres et aussi les logiciels type Mobilisons, qui suppriment en fait ces stratégies des GAFAM. Donc les likes sont supprimés, les compteurs d'abonnés sont supprimés et le scrolling infini est supprimé. Je pense que ça va vraiment être intéressant que les gens vont vouloir améliorer leur façon d'utiliser les outils du web, et donc je pense que ça va quand même grandir avec le temps.
Vas-y, ajoute quelque chose, je t'en prie.
Durant la crise de Covid, pendant la pandémie, l'utilisation des logiciels libres était vraiment au cœur du débat, et beaucoup de personnes lambda en utilisaient de plus en plus, comme le réseau social Mastodon, qui a été censuré par Twitter, aujourd'hui X. À mon avis, il faut encore amener de la sensibilisation et prévenir les utilisateurs sur dans quel terrain ils se lancent en utilisant des outils centralisés.
Ok, alors peut-être pour continuer et terminer sur ce dernier sujet, peut-être ce sera la dernière question que je vous propose. Il y a Mathieu d'une part, Judith d'autre part, qui nous demande si on peut totalement dégafamiser nos quotidiens. Mathieu précise même que lui-même imagine mal un arrêt total, j'imagine, de son usage des outils des GAFAM. Judith nous dit qu'on peut donc limiter l'accès à certaines limiter le fait de donner accès à nos données, mais est-ce que pour autant, on peut aussi éviter, échapper totalement au capitalisme de surveillance ? Donc deux questions un petit peu liées. Pareil, je ne vais pas vous demander forcément une réponse dans l'absolu, mais peut-être au moins de votre point de vue à vous. Je ne sais pas, par exemple, quels sont les outils des GAFAM dont vous pensez que vous ne pourriez pas vous passer, et ou ceux que vous utilisez et dont vous pensez que vous pourriez vous passer en termes de, voilà, de différents outils du web aujourd'hui. Est-ce que vous avez des éléments autour de ça ? Vous voulez apporter quelque chose ?
Alors, pour ma part, je pense que c'est possible, mais ça va être très dur, parce que pour chaque solution ou service apporté par les GAFAM, il existe forcément une alternative libre. Mais le problème, en fait, c'est que, par exemple, si on souhaite arrêter Instagram, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il faudra transférer tous nos amis sur le nouveau réseau social. Si par exemple on veut passer de Twitter à Mastodon, il faut qu'on a envie de partager avec nos amis, donc, ce qui est le but d'un réseau social. Il faut que tous ces amis passent aussi sur Mastodon, et je pense que c'est l'élément qui est un frein pour chaque personne pour qu'elle change de plateforme.
Ok, donc effectivement, c'est un argument très juste concernant notamment les médias sociaux. Donc effectivement, Mastodon, vous avez cité tout à l'heure d'autres outils de communication comme WhatsApp, etc. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre de difficultés. Peut-être dans d'autres types d'outils, à l'inverse, je sais pas, des outils que vous utilisez aujourd'hui, peut-être que vous utilisez peut-être Google Docs, par exemple. Il y a certains étudiants qui utilisent parfois ce genre d'outils. Et pour autant, là, du coup, la question se pose pas forcément, puisqu'on n'a pas forcément besoin que les autres utilisateurs soient dans le même environnement. Je sais pas si vous êtes utilisateur de ce genre d'outils et si vous envisageriez d'en utiliser d'autres, et si oui, sinon pourquoi ?
Alors, concernant les outils qu'on utilise pour travailler lorsqu'on est étudiant à l'UTC, chaque étudiant a ses logiciels qu'il préfère. Donc, une grande majorité passe par Google Docs. Et si vous avez envie, par exemple, de votre côté, d'utiliser les outils de Framasoft, cela va être très compliqué puisqu'il y a un manque d'interopérabilité entre ces différents logiciels. C'est la raison pour laquelle on est un peu contraint d'utiliser Google Docs comme les autres.
Ok, ok. Bon, il y a aussi l'UTC hein, qui propose également des solutions d'édition en ligne, des solutions bureautiques, et il y a quand même une certaine compatibilité entre ces solutions, donc c'est pas aussi fermé que, hein, que tu le dis. Allez, un dernier mot si vous voulez.
Et en fait, c'est souvent que, bah, par exemple, pour Google Docs, tout le monde va sur Google Docs et dit « bon, bah, je vais faire un Google Doc pour le travail de groupe ». Et pour ma part, en fait, Framasoft, je ne connaissais pas avant l'UVW1. Donc, en fait, je n'avais pas d'alternative parce que je ne connaissais que Google Docs. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de regarder s'il existe des alternatives libres à nos logiciels qu'on utilise tous les jours, parce que même Google Docs et toute la suite Google est disponible de base sur tous les appareils Android, et donc du coup en fait ils apportent la solution clé en main à exploiter.
Ok, ok, ben merci. Effectivement, vous avez soulevé au moins deux problèmes, voilà, qui sont certainement partagés par les acteurs de l'ESS que vous avez adressé dans le cadre de votre projet, c'est-à-dire bien la question de la dépendance au réseau, le fait que les autres personnes utilisent ce genre d'outils, et donc quelque part que c'est ceux auxquels on est formé, ceux avec lesquels on communique le plus facilement, et puis la question de l'information et de l'information. Effectivement, pour faire vivre des alternatives, il faut déjà en avoir entendu parler, les connaître, et puis peut-être aussi, comme tu le suggérais, savoir les utiliser, ou voilà, connaître leur potentiel. Eh bien écoutez, si ça vous va, je propose de s'arrêter là, mais si vous avez un dernier mot à nous dire autour de tout ça.
Merci de nous avoir écoutés.
Ok, ça marche. Eh bien, je vous dis, Florian, Romain, Paul, au revoir, et puis à une prochaine fois. On se reverra normalement, nous, la semaine prochaine en cours. Et puis on salue également tous les auditeurs et auditrices de Graphite. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.